Bonsoir, Tkoubine de la presse de ce soir vous propose trois thèmes, à savoir ouverture mercredi dernier de la session de septembre au Parlement. Ensuite, le président de la République suspend toute exploitation et exportation des minerais dans le Kivu et le Maniema. Enfin, explosion le week-end dernier à la sous-station Snell de Bandalungwa. Quel état des lieux faire du chantier électricité? Trois journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Jules Mwamba, il est chef des services information à Raga Télévision, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Paul Diakese, il est directeur des infos à la radio-télévision Sangomalamu, qui émet aussi depuis Kinshasa. Et Erickson Rutshuba, il est journaliste à la radio Victoire Horizon, c'est une radio qui émet depuis Butembo, au Nord Kivu. Ouverture de la session ordinaire au Parlement, suspension de l'exploitation des minerais à l'est de la RDC, ainsi que explosion le week-end dernier de la sous-station Snell de Bandalungwa, tels sont les thèmes retenus pour le débat de ce soir. Comment la presse kinoise a traité ces différents thèmes? Écoutons cette revue de presse que nous présente Kéline Kouté.
Bonsoir, commençons cette revue de presse par la rentrée parlementaire. Retour mouvementé au Palais du Peuple, Caméry en vedette américaine. C'est le titre à la une du journal Le Phare. Le journal précise que l'ex-président de l'Assemblée nationale a créé la sensation mercredi au Palais du Peuple. Dès qu'il s'est présenté dans la salle, poursuit Le Phare, caméramen et photographe se sont rués sur lui. Députés, sénateurs et publics lui ont réservé un accueil délirant. Pour sa part, Forum des As se livre à une véritable analyse comparative des discours prononcés par les présidents des deux chambres parlementaires. Boshab dans les rangs, Kengo se positionne, écrit le journal en titre. Le président de l'Assemblée, Évariste Boshab, selon le quotidien, est donc resté modéré, prononçant un discours classique qu'on a toujours l'habitude d'entendre à chaque rentrée parlementaire. Par contre, le président du Sénat, qui est proche de l'opposition, a profité de la tribune pour sortir un peu de ce discours classique. Léon Kengo Wadondo a donné sa propre vision sur la manière dont les affaires du pays devraient être gérées, notamment en ce qui concerne l'armée, la police et la justice. Quittons le Parlement pour nous rendre à l'est de la RDC où le président de la République, Joseph Kabila, vient de suspendre toute exploitation et exportation des minerais dans les deux Kivu et le Maniema. Le potentiel estime que Joseph Kabila a franchi une nouvelle étape en décrétant l'interdiction de toute exploitation minière dans le Grand Kivu. Reste que l'heure n'est plus à la récitation des bonnes intentions, mais plutôt agir. Le gouvernement, qui a pris une sérieuse option de restaurer l'autorité de l'État, est invité à sévir contre ces personnes qui, des années durant, ont privilégié leurs propres intérêts au péril de la vie des populations et de l'existence de la République. Chute le potentiel. Quoi qu'il en soit, les groupes armées actifs dans l'exploitation illégale des nombreuses carrières, eux, ne sont pas des enfants de cœur à gober allègrement par une décision d'où qu'elle vienne, prévient la tempête des tropiques. C'est donc un autre chantier que vient d'ouvrir Joseph Kabila, qui, selon la tempête des tropiques, nécessite des moyens vraiment conséquents pour l'entamer. Terminons ce journal de journaux par l'explosion le week-end dernier à la sous-station Snell de Bandalungwa. Le journal Le Potentiel revient sur le délestage qui, selon cette parution, a paralysé l'activité économique et plongé plus de la moitié de la capitale de la RDC dans l'obscurité. Le journal note que le chantier électricité peine toujours à se relever.
Merci, Kéline Kouté. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Jules Mwamba, vous êtes chef des services information à Raga Télévision. C'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Comment vous appréciez le travail fait par la presse kinoise cette semaine?
Concis, précis, qui ramasse tout de même les éléments importants de l'actualité, notamment la rentrée parlementaire, notamment cette interdiction par le président de la République de l'exploitation minière dans l'Est, très importante, et aussi les conséquences que nous avons subies de cette explosion dans la cabine de l'électricité de Bandal, qui a paralysé les activités à Kinshasa et qui continue à afficher un visage plutôt boursouflé du chantier électricité.
Paul Diakese, vous êtes directeur des informations à la radio-télévision Sangomalamu, qui émet aussi depuis Kinshasa. Comment vous appréciez ce travail des confrères journalistes?
C'est tout le titre révélateur de Africa News, Camerounais, vedette américaine au Parlement. Ça montre un peu que ce journal ne voulait pas privilégier les discours. Ces discours qui sont des discours coutumiers, des discours habituels que nous avons l'habitude d'entendre à chaque retour rentrée parlementaire.
Donc c'était déjà entendu.
Déjà entendu. Mais alors, Africa News a voulu marquer un peu une dissonance en parlant de la rentrée. Donc en fait, s'il faut paraphraser le confrère, c'est comme si la rentrée parlementaire de ce mois de septembre, c'est plus la rentrée de Vital Kamerhe.
Erickson Rutshuba, vous êtes journaliste à la radio Victoire Horizon, c'est une radio qui émet depuis Butembo au Nord Kivu. Quelle est l'actualité qui a dominé la province du Nord Kivu cette semaine?
Merci beaucoup, monsieur Guy Maté. Merci de m'avoir associé à cet échange avec d'autres confrères sur vos antennes. Sinon, l'actualité cette semaine à Butembo a été donc marquée par la visite du chef de l'État et président de la RDC, Joseph Kabila Kabongé, dans le Grand Nord, arrivé dans la soirée de samedi dernier. Sous la pluie, le président de la RDC avait procédé, bien sûr, le lundi 8 septembre dernier, au lancement officiel des travaux d'asphaltage du rue président de la République et site national numéroté. Mais aussi, pour cette question, chers confrères, nous avons tous, vous et moi, assisté à partir de nos petits écrans à cette rentrée parlementaire. Après 2 mois de vacances parlementaires, donc, même si certains députés et les sénateurs se sont contentés de passer des belles nuits dans leur villa en Europe, au lieu de venir consulter leurs bases respectives. Voilà, merci beaucoup.
Merci, nous abordons notre premier thème de ce soir. Ouverture mercredi dernier de la session de septembre au Parlement. À l'Assemblée nationale, les priorités de la session ordinaire de septembre ont été annoncées mercredi par le président de la Chambre basse. L'adoption des lois urgentes face aux impératifs constitutionnels, le dépôt du budget par le gouvernement, l'effacement de la dette et ses retombées sur l'assiette du fonctionnaire, telles sont les principales articulations du discours du président de la Chambre basse. Au Sénat, la question sécuritaire à l'est de la RDC est l'une des préoccupations soulevées par le président du Sénat dans son discours d'ouverture de cette session ordinaire. Pour Léon Kengo Wadondo, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader dans cette partie du pays. Autre question abordée par le président du Sénat, la consolidation de la démocratie congolaise. Reportage de Julien Nyamouini, rendu par Lievin Mwinga.
Dans son discours, Léon Kengo Wadondo a affirmé que même si l'accalmie est constatée sur certains fronts, la vulnérabilité du pays reste entière. Pour régler la situation sécuritaire, le président de la Haute Chambre du Parlement a estimé la nécessité de poursuivre des réformes amorcées par le gouvernement dans les domaines de l'armée, de la police et de l'administration. Kengo Wadondo estime que les réformes envisagées par le gouvernement ne peuvent aboutir sans l'implication des élus du peuple. Ceux-ci, dit-il, doivent voter des lois essentielles allouées à l'armée des crédits conséquent et d'en contrôler l'utilisation. Concernant la police, Kengo Wadondo souhaite que cette police soit structurée tant au plan national qu'au plan provincial et local. Pour lui, cette police doit être équipée et mobile, mais elle exige le recrutement des jeunes instruits et casernés. En marge de la Journée internationale de la démocratie, Kengo Wadondo souhaite la consolidation de la jeune démocratie congolaise.
C'est l'opportunité pour notre jeune démocratie de s'en approprier les valeurs qui passent par parlement fort, des élections libres et régulières, une justice indépendante, la protection des droits de l'homme, la non-discrimination, une société civile active, des partis politiques agissant, des médias libres.
Discours peut-être bien assimilé par les sénateurs.
Jules Mwamba, la session de septembre, une session qui était très attendue et que d'aucuns qualifient de session de tous les enjeux. Votre commentaire?
Oui, et qui va s'avérer être une session très laborieuse, dans la mesure où il y a énormément de matières qui devaient être traitées à la session de mars 2010 qui ne l'ont pas été, et qui doivent impérativement être traités au cours de cette session. C'est notamment le projet de loi sur l'aviation civile, sur les réformes judiciaires, le président du Sénat l'a souligné, la réforme des forces armées et de la police, la loi électorale par exemple, la loi budgétaire 2011. Mais il faut que je vous dise, Guy, que le gouvernement doit présenter au préalable l'exécution du budget 2010 avant l'adoption.
Cela est une exigence de l'Assemblée nationale.
C'est une exigence de l'Assemblée nationale. Donc, les honorables députés, si on peut le dire ainsi, c'est l'expression consacrée, nos députés doivent mettre les bouchées doubles pour pouvoir expédier tout ce programme afin que tout cela soit au point si on veut vraiment que notre pays puisse aller de l'avant.
Paul Diakessé, c'est vrai que cette session est une session budgétaire, mais bon, à part les budgets, les priorités diffèrent selon les personnes. Le président de l'Assemblée nationale, M. Évariste Beauchab, parle des projets, propositions des lois à caractère urgent et prioritaire. Hein. Il évoque, Jules Mouamba a commencé même à les évoquer, notamment les projets de loi sur la réforme judiciaire, l'aviation civile, la réforme des forces armées et de la police, la nouvelle loi électorale. Et comment vous analysez ces priorités telles que énumérées par le président Évariste Beauchab?
Dis-moi peut-être que je vais te surprendre. J'ai toujours été très réservé face au discours des politiques. Parce que s'il faut faire l'analyse de tout discours que nous avons entendu depuis l'installation de du Parlement, ce sont des beaux discours, des beaux discours avec des bonnes intentions. Et ça, c'est les gonds un peu du départ. Mais au fond, lorsque ils vont se mettre au travail, on va se rendre compte que rien n'a avancé. Des discours donnés, des discours lus par Caméré, par exemple, des discours de Beauchamp, sont des très beaux discours. Mais je ne pense pas que toutes les virgules et les points soulignés dans ces discours puissent être d'application pendant cette session. Cette session, malheureusement, Guy, c'est une session qui sera fortement politique. Je pense que vous avez déjà vu, que votre revue de presse est revenue sur la rentrée de Vital Kamerhe. Vous avez vu comment deux camps se sont dessinés, Vital Kamerhe d'un côté, Évariste Beauchab de l'autre, des applaudissements et des applaudissements ici. Ça annonce des couleurs politiques. Nous sommes à la veille de 2011. Et surtout qu'on va installer la Commission nationale électorale indépendante. Donc cette session, qu'on le veuille ou non, vous verrez que le budget, ça ne sera pas... Ça ne sera pas le point focal, ça sera plus politique. Et même le budget sera politiquement, sera rapidement voté. Ça sera, pas malheureusement, heureusement pour Mozitou, il va passer le cap, peut-être qu'il va arriver jusqu'en 2011, parce qu'on va un peu l'oublier pour des calculs politiques. Et vous verrez comment l'opposition va se déchirer pour choisir le candidat. Vous verrez comment les pouvoirs également, les provinces vont s'affronter, même si dans le discours de Beauchamp, il est revenu sur le choix qu'il faille avoir pour chaque province. Bon, on va vérifier cela. C'est une session qui sera hautement politique. Ces discours guimatés, nous en avons entendu beaucoup, mais ça n'a rien changé. Alors peut-être que là où ça peut être intéressant, c'est voir pour le budget, comment est-ce que le parlementaire vont affecter les 70 millions qui seront dégagés.
Qui étaient prévus pour payer la dette extérieure.
Parce que généralement, les députés sont connus comme étant égoïstes. Ils voient plus leurs intérêts. Vous savez qu'ils sont plusieurs mois, ils sont impayés. Est-ce qu'ils ne diront pas, écoutez, payons-nous d'abord et puis on verra le reste après. Surtout qu'ils savent qu'ils sont vers la fin de leur mandat. Nous qui sommes avec le peuple, nous regardons, nous assistons. Le sit-in de fonctionnaires, est-ce que ça aura des effets? Je ne pense pas. On a un peu la grâce de connaître la classe politique congolaise. Ça fait plus ou moins 20 ans que nous sommes ensemble avec les mêmes acteurs. Et je ne pense pas que ça sera une session qui marquera l'histoire. Malheureusement, ça va faire rebondir à la surface des clivages politiques, des dissensions au sein de partis politiques. Et ça va nous faire voir qu'en fait, on n'a pas de partis politiques. Et je crois que la vraie rentrée, comme je l'ai dit, c'est la rentrée de Vital Kamerhe. Qu'est-ce que ça signifie? Que Vital Kamerhe choisisse le mois de septembre, à la veille de 2011, pendant que le chef de l'État fait des visites à l'Est, c'est à l'Est où Kamerhe a plus vibré avec le PPRD. Pourquoi a-t-il choisi seulement maintenant pour entrer au Parlement? Et ça, c'est, même si on ne lit pas ça aujourd'hui, peut-être que les jours qui viennent, nous comprendrons la vraie signification de cette rentrée de Vital Kamerhe. C'est comme ça que moi je pense, au lieu de plus de parler de la rentrée parlementaire, on puisse parler de la rentrée de Vital Kamerhe.
Erickson Rutshuba, une session hautement politique, une session qui ne va pas marquer l'histoire. Au lieu de parler de la rentrée parlementaire, il faut beaucoup plus parler de la rentrée de Vital Kamerhe. Ces points de vue-là, vous les partagez? Allô? Allô? Apparemment, nous avons perdu notre ami Erickson Rutshuba qui intervenait depuis la ville de Butembo au nord Kivu. Jules Mwamba, une session hautement politique, une session qui ne va pas marquer l'histoire. Au lieu de parler de la rentrée parlementaire, il faut plutôt parler de la rentrée de Vital Kamerhe. Est-ce que vous partagez ces points de vue?
Bon, je ne vois peut-être pas les choses comme le voit mon confrère, parce que lui, il a un angle sous lequel il voit les choses. Moi, je pense que les députés ont tout intérêt à mettre les bouchées doubles, comme je le disais. Ils ont tout intérêt à mettre sur la table du président de l'Assemblée nationale toutes ces lois, ces projets de loi, pour que les choses soient faites. On a par exemple besoin, le président de l'Assemblée du Sénat l'a souligné, de la réforme de la police, par exemple, de la réforme de la magistrature. Ça, c'est des impératifs qui doivent être pris en compte prioritairement. Le chef de l'État, par exemple, j'anticipe un peu, il a interdit l'exploitation des minerais dans l'Est. Mais qu'est-ce que cela veut dire qu'il faut qu'il y ait une police qui veille au grain, une police qui fasse son travail pour que cela soit exécuté. Donc, je crois que les députés vont se mettre au travail. C'est vrai que c'est dans un climat déjà des échéances électorales, la fièvre électorale, etc. Les positionnements, le combat pour le positionnement, on va avoir ces choses là-bas. Mais je ne pense pas que cela puisse empiéter sur le travail qui doit être fait dans l'Assemblée nationale au point de l'occulter, hein, au point de l'éclipser. Je pense que cela va juste servir de ferment, juste un ferment, mais le travail va se faire.
Le président de l'Assemblée nationale affirme que l'Assemblée nationale exigera le rapport d'exécution du budget pour l'exercice 2010 avant d'examiner le projet du budget pour l'exercice 2011. D'un côté, on sent les soucis de savoir comment le budget a été exécuté, et de l'autre, il y a les facteurs temps qui fait défaut. Comment peut-on concilier ces deux impératifs à votre avis?
Mais naturellement, je crois qu'il faut que le budget 2010 soit expliqué. Expliquer qu'est-ce qu'on a fait de ce budget, comment on a dépensé l'argent, il faut que cela soit expliqué. D'autant plus que nous sommes à un moment où il y a cette affaire de point d'achèvement PPTE et qui normalement devait ramener quelque chose dans l'assiette de l'État pour permettre à ces malheureux fonctionnaires qui ont attendu pendant si longtemps que la manne vienne du ciel. Il faut bien qu'on explique ce qu'on a fait de l'argent. Comment voulez-vous qu'on avance, qu'on a le budget 2011 si on n'a pas expliqué le budget 2010.
C'est une approche tout à fait rationnelle.
C'est une approche rationnelle, mais c'est un impératif.
Erickson Rutshuba, je crois que nous l'avons retrouvé. Allô, Erickson Rutshuba,
oui,
vous êtes en ligne.
Oui, je suis en ligne.
Le président de l'Assemblée nationale demande au groupe parlementaire de lui faire des propositions pour la composition du bureau de la CENI au plus tard le 25 septembre prochain. Vous pensez que ce délai est réaliste?
Merci beaucoup pour cette question. Nous avons tous, vous et moi, assisté à partir de nos petits écrans à cette rentrée parlementaire. Après 2 mois de vacances parlementaires, c'est une occasion qui est offerte de nouveau à ces élus du peuple qui sont placés devant leurs responsabilités. Vous savez, chers confrères, l'année 2010 a été décrétée par le chef de l'État comme une année sociale du peuple congolais, c'est-à-dire donc... C'est-à-dire que la population a besoin de voir les changements et ses conditions de vie qui restent jusque-là précaires. Ainsi donc, comme c'est une session budgétaire, ces députés, ces sénateurs devraient cette fois-ci voter un budget qui va permettre le changement social du peuple congolais qui est de passer matin, midi et soir en train de produire des fidélités alors que la population attend beaucoup de choses d'eux. Contrairement à ceux qui pensent que les députés ont pour rôle de construire des ponts et des caniveaux, moins encore distribuer des petits dons, les élus du peuple devraient se mettre au travail pour non seulement voter les lois, mais aussi contrôler l'exécution du budget pour le gouvernement. Et tout ceci serait le bien-être des citoyens congolais. Donc, merci. Chers confrères, en plus de la loi budgétaire, ces représentants du peuple doivent aussi et surtout s'occuper de l'élaboration d'autres lois très, très importantes comme celle sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la mise en place du bureau de la Commission nationale électorale indépendante, la CNI en sigle. À cela s'ajoute la loi de découpage territorial avant la mise en place des nouvelles provinces dans le pays. Il y a donc toute une multitude de matières que nous considérons comme priorité pour la session en cours.
Paul Diakhessé, il y a aussi un débat autour de la révision de la loi électorale. Hein. Les uns pensent que ce n'est pas opportun. Les autres, par contre, estiment qu'elle doit être révisée. Hein. C'est comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, et qui pense que la révision de la loi électorale passe pour un impératif. Faut-il réviser cette loi ou pas?
Bon, bah, il est dommage un peu que la vie politique congolaise se vit seulement au Parlement. Et on sent l'absence de la société civile. Et ça, c'est une défaillance grave pour notre nation. Parce que lorsque le président de l'Assemblée nationale pense revoir la loi électorale, lui, en tant que chef d'un parti politique, est-ce a-t-il ses pouvoirs ou ses droits de penser à cela? Lui qui a la majorité au niveau de l'Assemblée, est-ce que ce n'est pas tendancieux et partial que de penser à réviser la loi électorale? Parce qu'il sait pertinemment bien que la loi, si aujourd'hui elle est révisée, c'est une loi qui sera taillée sur mesure par rapport à sa majorité, par rapport à son pouvoir.
Là, vous ne faites pas un procès d'intention?
C'est pas, non, pas du tout. Je pense qu'il ne faudra pas... Il ne faut jamais avoir peur lorsque vous appréciez les actes politiques. On ne vise pas un individu, mais nous visons ce qu'ils disent, l'exercice du pouvoir dont ils ont l'émanation. La loi électorale, si jamais il y a des personnes qui peuvent demander sa révision, ça aurait été le peuple congolais, pas la société civile. Mais lorsqu'un politique demande qu'on révise la loi électorale, moi j'ai toujours l'impression que c'est avec des idées derrière la tête. Et lorsque ça sort d'un chef d'un parti politique de la majorité, alors ça ne sonne pas bien. Bon, mais quoi qu'il en soit, qui doit réviser la loi? Est-ce que ceux-là qui ont été élus ou mal élus, ou ceux-là qui n'ont jamais été élus ou qui n'ont jamais participé à l'expérience électorale? Et ça risque d'être un piège. J'ai suivi ce matin Vital Kamerhe à travers vos antennes qui est revenu là-dessus. N'oublions pas que tout acte politique que nous posons, la loi électorale, les élections, n'oublions pas que nous sommes un pays post-conflit, n'oublions pas que nous sommes un pays qui est né des dialogues de San City. Donc, ne réveillons pas les vieux démons. Allons-y avec les écueils que nous avons, sans pour autant profiter de sa position pour donner une voix, mais bien taillée sur mesure.
Jules Momba, faut-il réviser la loi électorale, oui ou non?
Bon, moi, je pense que la politique étant, la vie étant même elle-même dynamique, la révision d'une loi est toujours possible, est toujours une chose faisable. C'est la question d'étudier les circonstances dans lesquelles cela se fait. C'est la Constitution elle-même est révisable, vous voyez. Comme la Constitution est déjà révisable, donc n'importe quelle loi peut être révisable dans la mesure où elle peut apporter un plus à la population qui est régie par cette loi-là. Donc, je ne pense pas, je ne voudrais pas que, comme le disait le confrère tout à l'heure, on soit fixé, que l'on soit déjà, on affiche un certain pessimisme en disant, parce que c'est le président de l'Assemblée nationale qui lui-même est politicien, ce qui est vrai, mais je pense que c'est le rôle de la société civile de pouvoir regarder les choses de près, s'impliquer pour voir si ce qui est fait est bien fait ou mal fait. Donc c'est pas mauvais en soi.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Le président de la République suspend toute exploitation et exportation des minerais dans le Kivu et le Maniema. Décision de suspendre toute exploitation et exportation des minerais, le président Joseph Kabila va plus loin. Après Walikale en province du Nord Kivu, le chef de l'État étend cette mesure également dans le Sud Kivu et le Maniema. Selon un communiqué du ministre congolais des Mines, rendu public le 11 septembre dernier, les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema sont toutes concernées par cette mesure. Selon le ministre, tous les titres miniers en cours légal, les autorisations de détention des comptoirs et exploitation artisanale des minerais dans cette partie du pays sont de ce fait suspendus. Bernardin Nyangui pour les détails.
Cette décision d'étendre cette mesure aux deux autres provinces, selon le communiqué du ministre, est motivée par le constat et l'analyse générale de la situation fait par le président Joseph Kabila en visite de travail depuis près d'une semaine dans le Nord Kivu. Selon cette source, cette décision s'explique surtout par le fait que l'exploitation et le commerce illégal des minerais dans cette partie du pays sont favorisés et entretenus par certains hauts cadres militaires et civils, tant au niveau local que national. Sans compter que cette activité profite aussi aux groupes armés qui entretiennent l'insécurité dans la région. Pour le ministre congolais des Mines, Martin Kabololo, l'extension de cette mesure a pour but d'empêcher les exploitants clandestins de passer par les deux autres provinces pour poursuivre ce commerce frauduleux. Quant à l'application de la mesure sur le terrain, la ministre provinciale en charge des Mines affirme que son bureau est déjà à pied d'œuvre pour mettre en place dès cette semaine les modalités et dispositions pratiques à cet effet. Goma, Bernardin Nyangui, Radio Kapi.
Erickson Rutshuba, vous êtes dans la province du Nord Kivu, une des provinces concernées par cette décision. Comment vous analysez la décision du chef de l'État?
Oui, merci beaucoup, monsieur Guy Mappé. Nous avons tous entendu ce discours éloquent du Raïs Joseph Kabila Kabongé, qui s'est dit déterminé à faire aboutir son programme des 5 chantiers dans les pays. Presque tous les rapports des ONG, tant nationales et internationales, reviennent sur le minerai congolais qui alimente les conflits dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous savez, monsieur Guy Mappé, le président l'a d'ailleurs dit dans son entretien avec la population de Butembo, où il s'est étonné de voir donc certains pays voisins devenir producteurs de l'or, alors que dans leur pays, on ne produit que des bananes. Voilà une telle réalité qui peut révolter plus d'une personne. Et là, le président a donné l'exemple de l'Ouganda, qui a déjà une raffinerie de l'or, alors que le pays n'a jamais produit de l'or. Le même constat est fait dans les territoires de Walikale, où les groupes armés naissent comme des champignons autour de l'exploitation des minerais congolais. Chaque jour presque, l'on entend des gens qui prennent en otage les habitants pour des raisons qui seraient liées à ces mêmes minerais. Et donc, le temps est venu au chef de l'État de mettre fin à cette aventure qui alimente l'activisme des groupes armés dans les provinces alors du Sud et Nord Kivu et même du Maniema. Cependant, il serait mieux que le gouvernement congolais prenne des dispositions adéquates avant que les choses ne tournent au vinaigre dans ces provinces où ces groupes armés risquent donc de s'apprendre aux populations civiles. Un territoire comme Walikale, où tous les minerais, y compris des maisons qui sont construites sur des minerais, alors je ne sais pas comment est-ce que le gouvernement congolais va opérer pour que ces populations ne meurent pas de faim.
Merci.
Et que ces groupes armés ne vivent plus sur les dos des pauvres habitants de Walikale. Il est toujours dit que la résolution d'un problème crée un autre problème. Donc le gouvernement congolais doit donc être vigilant à ce sujet. C'est le cas du tronçon routier Kassim Dibeni, où l'insécurité bat son plein chaque fois que l'on cherche à évacuer certains services illégaux qui favorisent la fraude douanière au poste frontalier de Kassim Dibeni, ce qui m'a dit.
Oui, Paul Diakessé, Erickson Rutshuba vient d'évoquer un certain nombre de faits qui semblent justifier l'opportunité de la décision du chef de l'État. Votre commentaire.
C'est une très bonne décision. Et d'ailleurs, lorsqu'on est à la place d'Eric, notre confrère.
Eric Rutshuba.
Qui vivent à l'Est connaissent très bien la réalité de cette exploitation frauduleuse et de ressources minières du pays. Mais aussi dans le contexte du président de la République. Le président a un bilan à défendre en 2011 et Au début de la campagne 2006, il avait promis la sécurité, mais également une bonne vie aux habitants de l'Est. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que ça ne marche pas très bien. La situation de l'Est, Maté, est complexe, au point que cette décision du chef de l'État risquerait d'être une décision qui ne produira pas d'effet.
Pourquoi ?
Parce que ce n'est pas la population qui exploite ces ressources minières. Ça, c'est un. Et de deux, ceux qui exploitent les ressources minières ne sont pas gérés par l'État congolais. Donc, ils ne sont pas concernés par cette décision. Parce qu'il y a des réseaux mafieux qui sont devenus de géants qui profitent de nos ressources. Que ce soit les FDLR, les Maï Maï, mais aussi de milieux congolais, des civils comme des militaires connus, qui sont connus. Si vous lisez les rapports de Tundula Bakandeja, il y a des gens qui sont cités, qui sont dans des réseaux qui exploitent les ressources minières au niveau de l'Est. Voilà pourquoi, tout en ayant cette bonne volonté du chef de l'État, il semble être seul et ne pas être suivi par cette décision. Une très bonne décision, mais qui malheureusement sur le terrain ne pourra pas avoir d'effet dans la mesure où ces milieux mafieux qui exploitent les ressources naturelles, les ressources dans le Kivu, ne sont pas concernés par les lois congolaises. Ils sont des clandestins, sont des mercenaires congolais, des officiels, des civils, des militaires, mais également des milieux occidentaux. Voilà pourquoi cette décision, quand bien même elle soit bonne, chef de l'État, mais bon, je vois très mal que les effets soient conséquents sur le terrain.
Jules Mwamba, Paul Jacquessé affirme que cette décision risque de ne pas être appliquée. Est-ce que c'est votre point de vue ?
Bon, mon point de vue à moi, c'est que le fait déjà de prendre une décision pareille pour le chef de l'État, c'est une bonne chose. Parce que c'est la première fois qu'une décision de telle envergure est prise par une autorité aussi élevée que le chef de l'État. Alors, le chef de l'État sait qu'il y a tout un cafouillage, toute une magouille autour de l'exploitation de ces minerais, que la plupart des tireurs de ficelles sont à Kinshasa, peut-être bien de son entourage aussi, il le sait. Mais quand il prend la décision d'arrêter, il arrête contre la volonté de même, peut-être bien, des gens de son entourage. Mais il a le courage, il a l'audace de le faire. Donc, c'est quelqu'un qui s'est dit, j'ai ouvert les hostilités, et qui s'efforcera de trouver des mesures d'encadrement pour que cette décision soit appliquée, soit observée. C'est pour nous, pour la population. Tout de même, même si forcément dans l'exécution il va y avoir des failles, mais déjà, moi je pense, je salue ce courage, déjà de prendre une décision comme celle-là, de pouvoir donner l'impression, donner la ferme conviction qu'on défend son pays, qu'on défend ses intérêts. C'est vrai que on est dans les échéances électorales, mais le fait tout de même d'avoir pris publiquement une décision pareille, c'est un fait qu'il faut souligner. Encore faut-il qu'il faudrait maintenant des mesures d'encadrement pour l'exécution de cette décision. Il faut notamment que la police, une police équitable, efficace, soit déployée sur le terrain pour pouvoir...
Le rétablissement de l'autorité de l'État.
Le rétablissement de l'autorité de l'État. Surtout que ceux qui exploitent ces minerais, ce sont des groupes armés, c'est des gens qui sont armés, qui ne demandent pas à aller faire une partie de, je sais pas moi, de plaisir, mais qui vont là-bas, qui cherchent les minerais, qui les exploitent, pour des raisons qu'ils connaissent, pour acheter des armes et continuer à faire ce qu'ils font. Donc ça ne sera pas une partie d'amusement qui va se tenir là-bas.
Oui, notre ami Erickson Rutshuba affirme que la résolution d'un problème risque de créer un autre problème.
Et justement, c'est cela. Parce que maintenant qu'on a décidé cela, il faudrait que des mesures d'encadrement, et qui dit mesures d'encadrement, dit encore des fonds qu'il faut dégager, dit encore la bonne gouvernance pour la gestion de ces fonds. S'il faut qu'on réforme notre police, il faut bien qu'il y ait des nouveaux cadres dans la police. Il faut qu'on rajeunisse notre police, par exemple, pour qu'on l'équipe suffisamment. Vous voyez, tout ça, ça demande un certain sérieux, un certain suivi. Résoudre un problème, c'est en créer un deuxième, c'est évident.
Erickson Rutshuba, vous pensez que cette approche pourrait être efficace pour affaiblir les forces négatives, hein? Nous savons que beaucoup des rapports publiés par certaines ONG ont toujours établi les liens entre la guerre qui sévit à l'est du pays et l'exploitation de ces minerais. Est-ce que cette approche est efficace pour affaiblir ces groupes armés?
Voilà, Albert, merci beaucoup, monsieur Guy Maté. Il appartient tout simplement au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités le plus tôt possible.
Paul Diakessé, vous pensez que cette approche pourrait affaiblir les groupes armés qui sévissent à l'est du pays?
Non, pas du tout, parce que, comme je l'avais dit, ils sont liés à des réseaux, non pas seulement congolais, mais également des réseaux occidentaux, de multinationales, qui ne sont pas contrôlés par notre nation. Mais là où je voulais plus en venir, sans pour autant avoir un discours alarmiste, mais peut-être que l'aspect soulevé par Eric en disant « ça résout un problème, mais ça va créer un autre ». Mais quel est ce problème que ça va créer? C'est le chômage. Vous savez qu'au nord, sud du Maniema, la plupart de la population, il n'y a pas d'emploi, pas d'entreprise, etc. Et tous travaillent dans des carrés miniers où ils sont rémunérés selon la quantité que vous apportez. Alors maintenant, officiellement, si on suspendait ces exploitations, cette population va se retrouver en chômage. Voici le problème que ça va encore poser. Donc, tout en voulant aider la population à obtenir des dividendes de ces ressources minières, nous envoyons cette population au chômage parce que ces carrés miniers ne seront plus exploités. Mais malheureusement, quand même cela, même la population, on ne sait pas comment elle a pris cette décision, dans la mesure où la population vit aux dépens de cette exploitation minière. Alors c'est là, la décision, elle est bonne, mais est-ce qu'elle a été... on a étudié les tenants et les aboutissants avant de le faire. Alors si cela a été le cas, nous espérons que le résultat seront positifs. Mais à l'heure actuelle, nous avons l'impression que ça sera difficile pour que cela soit effectif. Et la population, qui pour autant, on lutte pour elle, va subir plus les conséquences néfastes de cette décision.
Parce Et le président de la corporation des comptoirs du Nord Kivu affirme que 40% des recettes de la province du Nord Kivu émanent des taxes qui proviennent de ces secteurs-là.
Ah, tout à fait. Le Kivu, Guimate, c'est un mosaïque des problèmes. C'est tellement complexe. Et là, j'ai rejoint un peu Nguanda qui disait que Nguanda qui écrivait sur la fin de l'Orient de Mobutu. Il disait, tout à fait, Sisson Legla, c'est le titre. Il dit, aussi long, un président de l'RDC qui est à Kinshasa, qui n'a pas le Kivu avec lui, n'a pas le pouvoir. Donc, aussi longtemps que les problèmes de Kivu resteront un mosaïque difficile à résoudre, le pouvoir de Kinshasa aura toujours des difficultés.
Merci, nous abordons notre dernier thème de ce soir. Explosion le week-end dernier à la sous-station SNEL de Bandalungwa. Quel état des lieux faire du chantier électricité? Près d'une semaine après l'explosion survenue à la sous-station de la SNEL à Bandalungwa, maisons d'habitation, chambres froides, dispensaires, cybercafés, salons de coiffure et autres, tous connaissent des sérieuses difficultés de fonctionnement. Suivons Mimi Ngumba Mulongo qui a fait ses constats hier jeudi.
Depuis cette explosion survenue à la sous-station de Bandalungwa, certains quartiers reçoivent le courant un jour sur deux, mais d'autres restent carrément dans le noir complet. C'est le cas de certaines maisons de commerce visitées ces jeudis. À Kintambo Magasin, par exemple, plusieurs alimentations se voient contraintes de continuer à vendre des vivres frais, malgré le manque d'électricité, pour ne pas accumuler les manques à gagner. Les chambres froides, elles, obligées d'utiliser des groupes électrogènes à longueur des journées, se plaignent des dépenses exorbitantes non prévues au départ. Un gérant Angalima nous l'a dit.
Vous serez convaincus, vous et moi, qu'après quelques temps, le courant va se couper et j'alimente mon groupe que j'ai et ça m'écoute trop. J'y mets à chaque 5 heures 100 litres.
Sur la liste des victimes, il faut également citer les structures sanitaires. À ce jour, certaines sont incapables d'administrer des soins de qualité faute de courant. C'est le cas d'un grand centre situé à Bandal Chibangu.
Nous ne savons vraiment pas fonctionner alors. S'il faut que je parle de notre service particulièrement, nous ne savons pas poser les actes les plus banaux. Parce qu'on doit tout faire avec de l'électricité. Tailler les dents, quand on fait une extraction et qu'il faut qu'on termine par une chirurgie, nous avons besoin d'électricité pour pouvoir le faire.
Entre-temps, du côté de la SNEL, l'appel à la patience continue en attendant de rétablir la fourniture électrique dans les communes desservies par la sous-station SNEL de Bandalungwa. Des travaux qui ne prendront pas moins de 3 semaines nous ont rassuré certaines sources proches de la Société nationale d'électricité.
Jules Mwamba, je rappelle que vous êtes chef des services information à Raga Télévision. C'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Ce n'est pas la première fois que nous connaissons ce genre de situations. Hein. Qu'est-ce que ces nouvel incident vous inspire?
Bon, c'est un constat malheureux parce qu'on a l'impression finalement que la SNEL reste une sorte de canard boiteux qui est presque impossible à guérir, alors que ce n'est pas comme ça. L'électricité constitue un ingrédient extrêmement important dans la vie d'une nation, dans le développement. On a déploré, on n'aura jamais fini, cessé de déplorer la vétusté de notre matériel. C'est un matériel qui parfois tient de l'époque coloniale, qui n'a jamais été remplacé, alors qu'il faut bien le faire, il faut le remplacer. Et à côté de cela, il y a les difficultés qu'affiche l'État congolais de pouvoir gérer une entreprise d'électricité. Faut-il privatiser? On en a parlé, peut-être, parce que là, on a l'impression que ça devient un casse-tête pour l'État qui n'arrive pas à le faire. Bien entendu, il y a tout un autre contrôle qu'il faut faire, parce qu'il y a, contrôler le secteur de la consommation, il y a des maisons de commerce qui naissent comme ça, de façon incontrôlée dans les quartiers, dans le nouveau quartier, et qui va surcharger le matériel qui était disposé peut-être pour un peu moins de consommation. Tout cela fait que ça devient un problème difficile à résoudre.
Erickson Routchouba, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Victoire Horizon, c'est une radio qui émet depuis Butembo au Nord Kivu. Jules Mwamba affirme que la SNEL devient un canard boiteux et presque impossible à guérir. Comment se portent les chantiers électricité à Butembo, là où vous vous trouvez actuellement?
Oui, il faut dire à ce sujet, cher confrère, que le chantier électricité n'est pas encore visible dans les pays, même à Kinshasa où vous vivez. Nous attendons toujours des réclamations sur les délestages qui a tendance d'être normalisé, alors que c'est une irresponsabilité de l'État. Le même constat est fait dans les restes du pays où ce sont les stations de carburant qui alimentent certains quartiers avec toutes les conséquences que cela représente pour la population. C'est le cas de la ville de Butembo, une si grande ville commerciale de la province du Nord Kivu, pourquoi pas de la RDC, qui vit dans l'obscurité des petits groupes électrogènes que le Raïs Kabila avait laissé en période électorale, n'a jamais fonctionné. Il en est de même du petit barrage de la Sinoki, qui n'alimente plus la ville de Butembo il y a cela 2 ans. Mais au contraire, ce sont des vieux petits poteaux en bois qui conduisaient du courant, mais qui met en veille chaque jour la ville de Butembo, car en état de sécurité. À ce niveau, le gouvernement congolais devra encore une fois fournir à cet effort pour que le chantier électricité soit une réalité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
Merci. Paul Diakessé, je rappelle que vous êtes directeur des infos à la radio-télévision Sangomalamu, c'est une radio qui est émise depuis Kinshasa. La SNEL connaît beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour essayer de solutionner tous ces problèmes que connaît la SNEL?
Pas que la SNEL connaît des problèmes. La SNEL elle-même, c'est un problème pour les Congolais. Et je pense même, je ne sais même pas pourquoi on en parle, parce qu'il y a explosion. C'est à tout moment qu'on n'a pas du courant à Kinshasa. Vous comprenez qu'il y a explosion, mais 2 semaines après, nous ne savons pas encore pourquoi il y a explosion. Qui est le responsable? On n'a puni personne. Donc on se moque de Kino, on se moque de clients.
Ce n'est pas le monopole qui détient la SNEL dans ce secteur qui est à la base de tous ces problèmes.
Bon, mais là encore, c'est un terrain risqué, Maté. Je ne pense pas que le moment soit indiqué pour privatiser la SNEL, aller faire ceci ou cela. Je crois que le problème se trouve dans la gestion de la SNEL. Où est-ce qu'on canalise le fonds que la SNEL reçoit? On nous dit que le pays comme le Congo, le pays comme la Zambie, paye régulièrement l'argent pour la SNEL. Où va cet argent?
Merci, c'est la fin de cette émission. Jean-Noël Mokondo était à la technique. Alain Erung a réalisé pour vous cette émission. Il était assisté de Kéline Kouté sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. Guy Maté vous l'a présenté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.